France Culture.
Taxer les riches, derrière le slogan qui s'est répandu ces dernières années à travers toute la planète, en manifestation, dans les discours politiques ou même sur la robe d'Alexandra Ocasio-Cortez, figure de la gauche américaine lors du Met Gala de 2021, se trouve en réalité un ensemble faramineux de données, des heures d'enquête et un travail théorique minutieux. Ce travail est mené par des économistes de plus en plus nombreux à se pencher sur un sujet qui illustre bien la façon dont l'économie peut éclairer des enjeux politiques situés au cœur même de nos démocraties, car avec la question de la fiscalité à appliquer aux grandes fortunes, c'est toute une réflexion sur le consentement à l'impôt, sur l'égalité entre les citoyens à travers la façon dont ils contribuent ou pas au financement du système social dans lequel ils et elles évoluent qui se pose. Or, ce lien est mis à mal par un fait établi en 2024 par l'Observatoire européen de la fiscalité dans un rapport mondial sur l'évasion fiscale. Dans tous les pays où les données existent, les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts, toutes taxes comprises, que le reste de la population. Cela vaut aussi, voire surtout pour la France, où 50% des revenus des contribuables part en impôts, un chiffre qui tombe à 27% pour les milliardaires, soit presque deux fois moins. Face à de tels constats, des solutions existent. Notre invité du jour, professeur à l'École normale supérieure et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, en a fait son mantra. Mettre en place un impôt plancher de l'ordre de 2% sur les plus grandes fortunes pourrait changer la donne. Une proposition reprise dans le champ politique, à tel point qu'un projet de loi entend désormais concrétiser cette proposition qui porte désormais son nom. C'est la fameuse taxe Zucman, adoptée le 20 février dernier à l'Assemblée nationale. Elle sera examinée demain au Sénat et porte en elle une contradiction. Personne ne conteste les constats, mais les mécanismes pour les corriger sont beaucoup moins consensuels. Alors pour comprendre ce que contient véritablement cette taxe, ce qu'elle cherche à réparer et sur quel travail de recherche elle repose, l'économiste, enquêteur, professeur, auteur de tribune et parfois conseiller des politiques, Gabriel Zucman est donc notre invité aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch et mise en ondes par Raphaël Rousseau.
Gabriel Zucman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Gabriel Zucman, le rédacteur en chef de cette revue, donc Regard croisé sur l'économie, une revue semestrielle animée depuis 2006 par de jeunes chercheurs. Vous êtes vous-même tout jeune, jeune chercheur en sciences sociales consacré. Vous êtes vous économiste, hein, Gabriel Zucman.
Voilà, je commence voilà. Un doctorat en économie.
Alors je voulais vous demander, Gabriel Zucman, comment est né ce projet de revue ?
Et ce projet, il est né d'un constat. Et le constat, c'est que, de notre point de vue, les citoyens n'ont pas toutes les cartes en main pour faire des choix éclairés sur les questions économiques et sociales qui sont dans le débat public. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une production des sciences sociales, de l'économie, de la sociologie, etc. Et de l'autre, on a un débat public qui tourne beaucoup autour de la communication, où il n'y a pas tellement les arguments des sciences sociales qu'on retrouve clairement exposés. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était faire le pont entre les savoirs édifiés par les sciences sociales et les savoirs en construction et le débat public, de façon à ce que les citoyens puissent participer dans le débat public avec toutes les cartes en main et puissent s'orienter avec toutes les cartes en main.
Gabriel Zucman, bonjour.
Bonjour.
On vous entendait là le 12 juin 2009 sur France Culture. C'est la plus vieille archive qu'on a pu retrouver de vous. Vous étiez au micro de Jacques Munier dans l'émission À plus d'un titre et vous présentiez alors l'ambition de la revue Regard croisé sur l'économie. Ambition qui, on l'entendait, se concentrait donc sur l'amélioration de la qualité du débat public. Maintenant que c'est la taxe qui porte votre nom, qui occupe, qui fait aussi ce débat public, considérez-vous que ce dernier s'est considérablement amélioré ?
Je pense qu'on a fait des progrès, effectivement, c'est-à-dire que grâce aux études qui ont été menées par mes collègues de l'Observatoire européen de la fiscalité, de l'Institut des politiques publiques, à l'École d'économie de Paris, et puis plus généralement, en fait, de par le monde, on est arrivé aujourd'hui à des constats assez clairs. Vous en avez rappelé un, qui est que les très grandes fortunes, partout, payent moins d'impôts proportionnellement à leurs revenus que les autres catégories sociales. Et vous savez, l'impôt, c'est la question politique par excellence. C'est sans doute la question philosophique, politique la plus importante dans nos sociétés. l'économie contemporaine. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans des sociétés où la puissance publique prélève 30%, 40%, 50% en France du revenu national en impôts, et voter, décider sur la façon dont ces prélèvements doivent être opérés et comment cet argent doit ensuite être dépensé, c'est le travail fondamental qu'on a à faire tous en tant que citoyens. Et donc éclairer ces choix-là, c'est de mon point de vue une des missions les plus importantes, c'est pas la seule, mais une des missions les plus importantes des sciences sociales.
Un travail qu'on a tous à faire en tant que citoyens, et peut-être à plus forte raison en tant qu'économiste. Comment concevez-vous ce rôle de l'économiste, Gabriel Zucman ?
Moi, je m'inscris dans une tradition intellectuelle dans laquelle la raison pour laquelle on étudie l'économie, la société plus généralement, c'est pas parce que l'économie, la société existent comme les étoiles dans le ciel et comme on pourrait, comme un astronome pourrait les étudier. Mais c'est plus que ça. C'est parce que avec un travail approfondi, on peut contribuer non seulement à un débat public plus éclairé, ce qui était l'objectif de la revue Regards croisés sur l'économie, mais aussi à une amélioration des politiques publiques. J'aime beaucoup, par exemple, la métaphore qu'utilise Esther Duflo. Elle a un article célèbre dans l'American Economic Review où elle est, qui est intitulée « L'économiste comme plombier ». Et l'économiste comme plombier, cette métaphore, elle fonctionne bien pour l'économie en développement qu'elle pratique avec des expériences randomisées, mais aussi elle fonctionne très bien pour l'étude de la fiscalité, parce que dans nos systèmes fiscaux, il y a de l'évasion, il y a de l'optimisation fiscale, il y a des fuites, et une des façons dont on peut se montrer utile, c'est d'expliquer comment on peut résoudre ces problèmes, hein, qui ne sont pas des fatalités, qui ne sont pas des lois de la nature, mais avec des meilleures politiques publiques, avec des impôts mieux faits, on peut répondre très concrètement à ces enjeux.
Je vous posais la question de ce rôle de l'économiste parce que vous vous l'êtes vous-même posé il y a assez longtemps, en 2011, toujours dans un numéro de repenser, enfin de regard croisé sur l'économie. Ce numéro était intitulé « Repenser l'économie ». Vous le coordonniez à l'époque avec un objectif, et je vous cite là, l'objectif c'était d'éclairer le débat public sans s'y substituer dès lors qu'une loi porte votre nom, Gabriel Zucman. Est-ce que vous considérez que c'est toujours le cas ?
Oui, sans s'y substituer est très important, parce que c'est pas aux économistes, ni à qui que ce soit d'ailleurs, de décider des lois, et certainement pas des lois fiscales. Tout le monde, et c'est parfaitement normal, a des idées différentes sur le juste niveau de progressivité fiscale. Et la seule façon dont on peut trancher ces questions-là, c'est par une délibération démocratique et le vote. C'est pas aux économistes de dire le taux d'imposition devrait être X ou Y. C'est fondamentalement aux citoyens, via leurs représentants au Parlement, de décider. Là où les économistes peuvent se montrer utiles, c'est de deux façons. Première façon, en expliquant les problèmes. Donc là, aujourd'hui, on a un problème, effectivement, d'injustice fiscale, de régressivité de l'impôt tout au sommet de la distribution des fortunes. Et deuxièmement, et c'est encore plus important, d'expliquer l'éventail de solutions. Parce qu'il y a toujours beaucoup de solutions possibles. Alors, on peut choisir de ne rien faire, c'est une réponse possible. Et puis, on peut choisir de mettre en œuvre différents instruments. Et expliquer quelles sont ces solutions, ça ne veut pas dire voilà, il n'y en a qu'une seule et c'est ça qu'il faut faire. C'est permettre aux gens ensuite et à nos représentants de voter et de décider.
J'insiste sur l'actualité qui nous occupe, le fait que cette proposition de loi ait déjà été adoptée à l'Assemblée nationale, qu'elle passera demain, je le disais, devant le Sénat. Je trouve ça intéressant parce que c'est un peu un cas d'école en soi. C'est relativement rare aussi qu'un économiste parvienne à, on va dire, accéder à une forme de visibilité telle que celle-ci, et puis accéder aussi à cette sphère politique-là, cette reprise politique-là. Cette proposition de loi, elle est défendue, effectivement, politiquement. Vous avez signé aussi une tribune intitulée « Le temps est venu de soumettre les très grandes fortunes à un taux minimal d'imposition » qui a été signée par Clémentine Autain, députée du groupe écologiste, Sophie Binet de la CGT, Éric Coquerel, Cécile Duflot, Camille Etienne, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Marie-Lise Léon, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Tout cela, cette tribune-là, elle a été appelée d'un appel de personnalité derrière Gabriel Zucman. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de ce dont a besoin la politique ? Est-ce que c'est de la légitimité d'un travail scientifique d'économiste ? Et ce dont a besoin de l'économiste, est-ce que c'est effectivement cette reprise politique-là ? Est-ce que le rôle de l'économiste est aussi cela ? Tout faire pour qu'il y ait une traduction politique ?
Moi, je veux plutôt insister sur le fait que derrière tout ça, il y a un travail collectif. d'analyse de données, de mise en évidence des problèmes, de réflexion sur des solutions. Donc après, la taxe peut s'appeler X ou Y, mais derrière tout ça, il y a tout un travail de dizaines, de centaines de chercheurs dans le monde entier qu'on a essayé, par exemple, il y a un peu plus d'un an, de résumer dans le rapport mondial 2024 sur l'évasion fiscale. Et bon, voilà, c'est ça qui compte. La construction, l'édification des savoirs, c'est toujours un travail collectif. On a toujours individuellement un rôle extrêmement modeste, extrêmement limité, et ça s'applique tout à fait à mon cas à moi. Et puis bon, le but des sciences sociales, c'est pas toujours d'avoir un impact politique, hein. Bien sûr que non. Il y a tout un tas de travaux, de recherches fondamentales qui ont été menées avant de pouvoir procéder à une élaboration d'une proposition concrète, qui sont absolument vitaux et qui sont absolument essentiels. Mais bon, les deux sont intéressants, c'est-à-dire de pouvoir mener un travail sur les données, sur une analyse historique, comparative des inégalités, de l'évolution de la fiscalité. C'est intéressant en soi, c'est essentiel. De pouvoir en tirer parfois des leçons pour contribuer à éclairer le débat public contemporain, bon, bah, c'est une façon, je pense, dont les chercheurs peuvent se montrer utiles au débat public.
Alors, je suis très contente que vous mentionniez l'idée d'un travail collectif, parce qu'effectivement, c'est aussi une autre façon de vous présenter, de poser le personnage aussi que vous êtes. Votre nom a été très souvent accolé à celui de Thomas Piketty, qui a dirigé votre thèse en 2013, à celui aussi d'Emmanuel Saez, qui a été professeur à l'Université de Californie à Berkeley, avec lequel vous avez écrit Le Triomphe de l'Injustice, paru en octobre 2019 aux États-Unis et en février 2020 en France. Alors, tous les deux sont un petit peu plus âgés que vous, on ne peut pas forcément parler d'une génération, mais un article du Monde vous décrit en 2019 comme le Benjamin de la bande à Piketty. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment, voire l'intention affichée d'appartenir à une bande, de faire corps pour imposer certaines idées, pour porter un message ?
Je ne le dirais pas exactement comme ça, je dirais simplement que depuis une vingtaine d'années, il y a eu un tournant dans les sciences sociales où l'étude des inégalités économiques est revenue au cœur de la discipline. C'était beaucoup moins le cas dans les décennies d'après-guerre, quand dans les années 50, 60, ce qui passionnait les gens, c'était les questions strictement d'efficacité. Au moment de la guerre froide, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la question du moment, c'était est-ce que c'est l'économie de marché ou l'économie planifiée qui fonctionne mieux. Et donc, plus ou moins, toute l'économie tournait autour de ces considérations-là. Et c'était aussi la période où les inégalités étaient un étiage historique. Depuis, elles ont augmenté, pas exactement au même rythme dans tous les pays, mais enfin quand même, il y a une tendance générale au niveau mondial à l'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoine depuis les années 80. Et les économistes ont mis un petit peu de temps à s'y intéresser, mais enfin quand même, depuis une vingtaine d'années, ces considérations, ces préoccupations-là sont revenues véritablement au cœur de la discipline. Vous avez mentionné Thomas Piketty, Emmanuel Saez, ils ont joué un rôle très important dans ce mouvement-là, mais il y a beaucoup d'autres économistes, des dizaines, des centaines, et parfois on entend l'idée que oh là là, tout ça, ce serait une bande d'économistes français, parce qu'en France, vous comprenez, les gens sont obsédés par les inégalités, la jalousie, etc. Ben, tout ça est complètement faux, parce que c'est une communauté scientifique avec des centaines de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là dans tous les pays du monde entier, et en réalité, ce n'est qu'un retour, en quelque sorte, aux sources de l'économie telle qu'elle était pratiquée au 19e siècle, où à l'époque, ce qui passionnait les économistes, Ricardo, Marx, etc., c'était la question de la distribution des richesses, des tendances historiques longues à la concentration des fortunes, des patrimoines, aux forces économiques qui pouvaient expliquer ces tendances-là. Et donc, on revient aujourd'hui, en quelque sorte, à ce qui a été historiquement le cœur de l'analyse économique.
Et puis, il y a peut-être eu aussi une forme de prise de conscience à un moment donné, qui correspond aussi à votre parcours intellectuel. C'est qu'il y a eu une crise quand même majeur à toute fin des années 2010. Typiquement, quand vous vous posez la question, alors que ce soit dans ce fameux numéro de Regard croisé sur l'économie, la façon dont on peut repenser l'économie, est-ce que c'est une forme de critique de la façon dont on l'a pensé jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de la crise financière aussi des années 2009 a joué un rôle ?
Oui, elle a joué un rôle important. Comme tous les chercheurs en sciences sociales, j'ai été marqué par le contexte économique, social, politique dans lequel j'ai eu à décider de mon orientation professionnelle. J'ai fait mes études. J'avais 21 ans au moment de la crise financière de 2008-2009. Un choc économique, un cataclysme considérable que les économistes n'avaient pas vu venir. Ils nous avaient certains expliqué doctement que voilà, les marchés financiers s'auto-régulaient, que les crises financières appartenaient au passé. On s'est rendu compte que la réalité était un petit peu plus compliquée que ça. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de me plonger dans l'étude de l'économie. C'est ça qui m'a convaincu, finalement, de faire une thèse, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait simplement pas comprendre ces sujets-là si on restait trop à un niveau de superficialité, bien sûr. Mais surtout, plus fondamentalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me plonger dans les statistiques macroéconomiques internationales, les balances des paiements, les positions internationales des pays, dans lesquelles on voit des centaines de milliards d'euros, de dollars qui transitent par des pays comme les îles Caïmans, le Luxembourg, Singapour, le Panama, les paradis fiscaux. Et ça, ça a été un choc, ça a été une révélation, parce que évidemment, j'en avais entendu parler. Il y avait des gens, des ONG, des chercheurs qui étudiaient ces questions-là. Mais c'est vrai que de le voir de façon très concrète dans les statistiques officielles du FMI ou de Eurostat, etc., c'était vraiment choquant, c'était vraiment une révélation. Et donc moi, j'ai voulu comprendre à l'époque quel lien ça pouvait entretenir avec la crise financière. Est-ce que ces paradis fiscaux avaient été une source d'instabilité? Quelles conséquences aussi ça avait pour la dynamique des inégalités? Est-ce que finalement, quand on voit centaines de milliards de dollars aux Bermudes, on sous-estime pas le niveau des inégalités avec nos méthode traditionnelle qui se repose sur des enquêtes auprès des ménages ou des données fiscales? Je voulais comprendre qu'est-ce qui, derrière ces milliards, représentait de l'évasion fiscale, de l'optimisation, de l'arbitrage réglementaire, etc. Donc ça a joué un rôle très important dans ma formation, dans mon choix d'étudier l'économie, dans mon évolution intellectuelle. L'autre élément qui a été déterminant, c'est effectivement mon séjour aux États-Unis. J'ai vécu 10 ans dans la baie de San Francisco, à Berkeley, qui est une région où les inégalités crèvent les yeux. C'est-à-dire que c'est sans doute une des régions les plus inégalitaires du monde, où vous avez d'un côté l'extrême richesse des milliardaires de la tech, et aussi l'extrême pauvreté, avec littéralement des dizaines de milliers de sans-abri qui coexistent comme ça sur un tout petit territoire. Et c'est vrai que ça crève tellement les yeux que c'est vraiment difficile de s'intéresser à quoi que ce soit d'autre. Et c'est là où je me suis vraiment plongé à fond dans l'étude des inégalités, avec d'abord un intérêt particulier pour le cas américain, étant sur place, mais toujours préoccupé par une analyse plus comparative et essayer en fait de s'intéresser au monde entier.
On va revenir sur le cas très spécifique des États-Unis parce qu'il est aussi quelque part emblématique de la façon dont les questions fiscales, les questions d'inégalité et les questions de démocratie sont extrêmement liées les unes avec les autres. Avant cela, et pour d'entamer aussi ce débat autour de cette fameuse taxe Zucman qui, je le disais, va être présentée demain devant le Sénat. On le comprend dans ce que vous nous dites, finalement, Gabriel Zucman, c'est qu'il y a eu des avancées, alors que ce soit grâce au traitement de la donnée qui a été rendue disponible ou que vous êtes allé chercher plus ou moins avec les dents. Il y a eu une prise de conscience aussi avec la crise financière de la fin des années 2010. Et peut-être pour vous positionner, on va dire définitivement, je tiens à signaler que ce matin a apparu une tribune dans Le Monde que vous avez co-signée avec deux autres économistes, Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry. Et voici ce que vous dites dedans. Nous avons tous les trois, comme tous les citoyens, des avis différents sur la nature du système fiscal idéal et le juste niveau de progressivité de l'impôt. Mais nous partageons le constat que les plus riches ne contribuent pas aujourd'hui à hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales, là où il y a potentiellement divergence politique, on va le voir, il y a une forme de consensus scientifique, Gabriel Zucman, sur cette question.
Oui, parce que les études qui ont été menées, souvent en partenariat avec l'administration fiscale, sont incontestables. Et le constat, en réalité, est récent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opacité très forte sur ces questions de grande fortune, quel est le niveau réel des plus hauts patrimoines, quels sont leurs revenus, quels sont leurs vrais taux effectifs d'imposition. La statistique publique est tout simplement silencieuse sur ces sujets-là. Donc jusqu'à très récemment, simplement, on ne savait pas. La seule source qui existe, c'est des estimations qui sont faites par les différents magazines, que ce soit Challenge pour les 500 plus grandes fortunes professionnelles de la France, le magazine Capital, le magazine Forbes ou Bloomberg qui essaye de recenser les milliardaires mondiaux. En essayant de collecter les bribes d'informations publiques qui sont disponibles, mais de façon tout à fait insatisfaisante, en tout cas beaucoup moins satisfaisante que ce qu'on pourrait avoir s'il y avait des statistiques officielles publiées par l'INSEE en France sur ces questions-là. Et ce n'est que grâce à un travail qui a pris des années, un travail au long cours de collaboration entre des chercheurs et l'administration fiscale, que pour la première fois, on a pu aller au-delà simplement de ce que montrent ces classements, ce qui est effectivement la très grande prospérité des grandes fortunes, l'explosion de leurs fortunes, mais pour la première fois, pouvoir mesurer leur véritable contribution fiscale. Et donc, ça a mis un peu de temps à ce que les gens se rendent compte du problème, mais maintenant que ces études sont là, tous les gens qui s'y penchent sérieusement, qui les regardent sérieusement, ne peuvent qu'arriver à la conclusion qu'il y a un problème.
C'est au moins une bonne façon de commencer à débattre, on va dire, de poser le problème ensemble. Reste à savoir si la solution fait aussi consensus. Alors, il nous faut là entrer dans le vif du sujet, Gabriel Zucman, à savoir cette fameuse proposition de loi portée par des députés du groupe écologiste, dont Eva Sassé, Clémentine Autain, qui a donc été adoptée à l'Assemblée nationale le 20 février dernier par 116 voix contre 39, avec le soutien des députés de la gauche et l'abstention du Rassemblement national, et sur laquelle le Sénat se prononcera demain. Gabriel Zucman, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de cette proposition de loi, quel en est le principe, quel est le principe de cette fameuse taxe Zucman?
Alors, le principe, à partir du moment où il est établi que les très grandes fortunes payent peu d'impôts, en particulier extrêmement peu d'impôts sur le revenu, c'est de créer un impôt plancher, un impôt minimum. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, l'impôt minimum? Tout simplement parce que c'est la façon la plus efficace de lutter contre ce phénomène. L'impôt plancher, il vient s'attaquer à toutes les formes d'optimisation fiscale, quelles qu'elles soient. On n'a pas besoin de spécifier qu'on va s'attaquer à tel ou tel montage. Le principe de l'impôt minimum consiste à dire, à la fin des fins, si vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, qui est la population concernée par ce dispositif, on parle d'environ 1800 foyers fiscaux. Si vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, vous devez payer un minimum d'impôt sur le revenu. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Si vous avez déjà payé un montant raisonnable d'impôt sur le revenu, défini comme étant plus de 2% de votre patrimoine en impôt sur le revenu, alors il n'y a rien de plus à payer. Vous n'êtes pas concerné. En revanche, si vous avez payé moins de 2%, alors vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%. Donc c'est ce qu'on appelle un impôt différentiel, c'est-à-dire qu'il ne vient pas s'ajouter au reste. Il vient complémenter ce qui a déjà été payé. Et pourquoi 2%, juste pour finir sur cet élément, 2%, c'est modeste, à l'évidence, comme taux. C'est pas le grand soir fiscal, c'est pas la révolution fiscale. On pourrait vouloir, moi je serais prêt, bien sûr, à défendre des taux beaucoup plus ambitieux, et j'ai pu le faire par le passé. Mais c'est le taux qui vient simplement effacer la régressivité du système fiscal. C'est-à-dire qui vient s'assurer que nos plus grandes fortunes ne payent pas moins en impôts relativement à leurs revenus que les classes moyennes ou que les classes populaires. Donc pour le résumer simplement, c'est simplement exiger de nos plus grandes fortunes qu'elles ne payent pas moins d'impôts que leurs secrétaires.
C'est une forme de mécanisme de compensation.
C'est exactement. C'est un mécanisme anti-abus qui vient fondamentalement mettre en conformité nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels fondamentaux. Pourquoi ? Parce que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a poser le principe d'égalité devant l'impôt, repris dans la Constitution de la Ve République. L'interprétation à minima du principe d'égalité devant l'impôt, c'est que l'impôt ne doit pas pouvoir être régressif. C'est-à-dire que les gens riches doivent payer au moins autant en impôt par rapport à leurs revenus que le reste de la population. Il y a d'autres interprétations possibles. L'interprétation plus normale, standard, consiste à dire que l'impôt doit être progressif. Mais si on prend l'interprétation vraiment à minima, sur laquelle tout le monde doit être d'accord, c'est que le système fiscal ne doit pas être régressif. Or, aujourd'hui, ce que les études ont démontré, c'est que nos systèmes fiscaux ne respectent pas ce principe constitutionnel fondamental. Et avec l'impôt plancher de 2%, qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 20 février, qui va être examiné par le Sénat le 12 juin, simplement, c'est une simple mise en conformité avec ce principe constitutionnel fondamental.
Gabriel Zucman, vous l'avez dit vous-même, cette proposition, elle est relativement simple. Le principe est simple à comprendre, même si on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Il y a un autre homme qui a donné son nom à une taxe, c'est James Tobin. On en parlait il y a quelques jours à cette antenne. Et lui-même, il assumait le concept. Il assumait de dire, pour qu'une taxe puisse être efficace, pour qu'elle puisse être comprise par tous et puis surtout amenée sur un plan politique, il faut qu'elle soit simple. Est-ce que vous souscrivez à ce propos ?
Je pense qu'il y a des vertus, effectivement, à la simplicité, parce que, oui, effectivement, c'est plus facile d'avoir un débat éclairé, bien informé, sur ce, quand les choses sont simplement expliquées, simplement posées. Alors, parfois, il y a un discours un peu extrême qui consisterait à dire, voilà, notre code des impôts, avec ses centaines de pages, ses milliers de pages, est beaucoup trop long, il faut sabrer dans tout ça. Et non, ça, c'est vraiment un discours simpliste. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un minimum de complexité nécessaire, compte tenu simplement de la complexité de l'organisation de nos économies et de nos sociétés. Donc, il ne faut pas verser dans ce simplisme-là. Mais bon, je pense qu'en tout cas, le mécanisme simple et clair du taux minimum, c'est un outil puissant. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. On a un taux minimum d'imposition pour les sociétés multinationales. C'est de ça dont je me suis inspiré. C'est-à-dire que en 2021, il y a un certain nombre de pays qui se sont mis d'accord pour mettre en œuvre un taux minimum de 15% sur les profits des grandes entreprises multinationales. Alors, je trouvais ça très intéressant, même s'il y a beaucoup de limitations. Le taux de 15% est très faible, en particulier. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'était une innovation. Et tout de suite, je me suis dit, bah oui, si on l'a fait pour les sociétés multinationales, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire après tout pour les grandes fortunes? Les problèmes sont les mêmes. C'est les acteurs économiques qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, qui sont le plus sous-taxés aujourd'hui. Et donc, simplement, bah, ce qu'on a fait pour les multinationales, appliquons-le aux grandes fortunes.
Nous avons aujourd'hui obtenu
Emmanuel Macron le 15 décembre 2022.
Et là aussi, ces dernières minutes, ça fait partie de l'accord groupé que nous avons fait accoucher dans ces dernières heures. L'imposition des entreprises à un niveau minimal de 15% est maintenant actée.
C'est une révolution fiscale, d'abord parce que nous ne reviendrons pas en arrière.
Bruno Le Maire, le 9 octobre 2021.
Enfin, les géants du numérique vont payer leur juste part d'impôts dans les pays dont la France, dans lequel ils font des profits.
Olaf Scholz, le 15 décembre 2022.
Nous sommes enfin en train de mettre en place en Europe un projet qui me tient à cœur, l'imposition minimale globale pour les grandes entreprises. Et dans cet esprit, je suis très confiant sur le fait que nous nous mettrons d'accord lundi sur des mesures de grande envergure dans le secteur de l'énergie. Je dis tout cela pour que ce soit clair, l'Europe répond de manière claire et puissante aux crises actuelles dans le monde.
Thomas Piketty, le 4 juin 2021.
Le point important de ce rapport de l'Observatoire européen sur la fiscalité, c'est de dire que c'est possible pour chaque pays d'avancer unilatéralement. C'est-à-dire que ce sera un acte de souveraineté fort, effectivement, que la France ou l'Allemagne, ou c'est toujours mieux si on est plusieurs pays, mais déjà pour commencer la France, disent, écoutez, nous, au 1er janvier 2022, de toute façon, on taxe à 25% les profits de nos multinationales qui sont localisées en Irlande, au Luxembourg, à partir du moment où elles payent un taux plus bas dans ces pays-là.
Nous parlions à l'instant de l'initiative menée en 2021 de taxer à hauteur de 15% les bénéfices des multinationales. 140 pays s'étaient réunis autour de l'OCDE et du G20. Tout le monde s'était mis alors autour de la table. Une directive européenne a été promulguée depuis en 2022 et c'est la loi de finances de 2024 qui a transposé en France ce nouvel impôt. Vous l'avez dit, Gabriel Zucman, ce dispositif-là vous a largement inspiré. Et pourtant, en 2018, vous disiez que 40% des profits des multinationales sont déclarés dans des paradis à fiscalité nulle ou faible, soit près de 650 milliards de dollars chaque année. Les gouvernements ne sont pas arrivés à lutter et ont quasiment perdu la foi dans la taxation des multinationales. Une telle initiative a-t-elle rendu l'espoir, quelque part ?
Oui, parce que c'était la première fois qu'on se mettait d'accord sur le principe d'un taux minimum commun d'imposition. C'est-à-dire que ce qui a vu le jour en 2021, c'est potentiellement un tournant dans la régulation de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'idée qui dominait, c'était que la concurrence fiscale internationale, c'était une espèce de fatalité, de loi de la nature, et que voilà, la seule solution possible, c'était de baisser les uns après les autres nos différents taux d'imposition pour attirer un peu d'activité ici, un peu de profit par là, et que tout cela allait se finir par des taux extrêmement faibles ou zéro sur les acteurs économiques les plus mobiles, les entreprises multinationales, les grandes fortunes. Il y avait eu certaines tentatives quand même pour limiter cette concurrence fiscale internationale, des accords de l'OCDE déjà à partir du milieu des années 2010, mais tous ces accords ne portaient jamais sur le taux d'imposition. C'était uniquement sur des aspects secondaires, la définition des profits, la définition de l'assiette, quand ce qui est absolument central dans toute politique fiscale, c'est le taux. Et en 2021, pour la première fois, il y a 140 pays qui se mettent d'accord pour dire « Ah non, on va se mettre d'accord sur un taux minimum coordonné ». Alors ça, c'est une source d'espoir considérable, parce que c'est une illustration extrêmement concrète de cette idée fondamentale que la concurrence fiscale, c'est pas une loi de la nature, c'est un choix. C'est un choix de politique publique. On peut choisir la concurrence, comme on l'a fait pendant très longtemps, avec des conséquences catastrophiques. Ou on peut choisir la coordination, l'harmonisation. Alors, ceci dit, il faut pas exagérer l'ampleur des progrès réalisés. 15%, comme je l'ai rappelé au début, dans des sociétés où le taux de prélèvement obligatoire est plutôt de l'ordre de 40-50%, où les classes populaires, les classes moyennes payent 40-50% de leurs revenus en impôts, l'idée que les grandes sociétés multinationales, pour elles, 15% c'est suffisant et on va pas leur demander davantage, a quelque chose de quand même très choquant et très problématique. Alors c'est mieux que zéro. Mais il est important, très rapidement, d'aller plus loin que 15%. Et pour ça, il va sans doute falloir passer par, effectivement, des mesures unilatérales, certains pays ou des coalitions de pays qui disent, nous, compte tenu de nos normes fiscales à nous, 15%, ça suffit pas, on va plutôt demander 20, 25, 30%.
Alors vous commencez tout de même par réfléchir à l'intérieur des frontières françaises, puisque cette proposition de loi concerne la France, il faut bien le préciser, on verra dans quelle mesure ça représente une limite ou non. Mais vous le disiez, le plus important c'est les taux, donc on l'a dit, ce taux-là, il est selon vous, il doit être de 2%, on l'a dit, sur les grandes fortunes. Deux questions se posent, si on veut rentrer dans le détail, il y a à la fois la question de qui va être concerné, et puis la question de quoi, de qu'est-ce qui va être concerné. Je voudrais qu'on commence par le quoi, pour bien comprendre ce dont il s'agit, Gabriel Zucman. Qu'est-ce qui va être taxé très précisément? Est-ce que c'est le revenu ou est-ce que c'est le patrimoine de ces ménages, de ces individus qui vont être concernés?
C'est 2% du patrimoine. Et qu'est-ce que c'est le patrimoine? C'est la valeur totale de vos différentes propriétés, qu'elles soient immobilières, financières, comptes en banque, actions, etc. Net de vos dettes. C'est la définition absolument standard du patrimoine qui est utilisée dans le monde entier. Et le taux minimum est exprimé en pourcent du patrimoine. Pourquoi? Pour une très bonne raison, qui est que la raison pour laquelle les grandes fortunes ont des taux d'imposition si faibles aujourd'hui, c'est parce qu'elles peuvent facilement déclarer peu ou pas de revenus. Elles peuvent structurer leur patrimoine de façon à ce que ce patrimoine ne génère pas beaucoup de revenus taxables, de revenus fiscaux. Elles le font en pratique, en utilisant des sociétés holding. C'est-à-dire que leurs revenus, c'est les dividendes des entreprises qu'elles possèdent. Les grandes fortunes tirent l'essentiel de leur richesse, de la propriété de grandes entreprises. Ces grandes entreprises distribuent des milliards de dividendes. Ces milliards de dividendes, on pourrait penser, ils sont fiscalisés. Ils vont être taxés, il y a une flat tax de 30%. Que nenni! Ils ne sont pas fiscalisés parce que ces milliards de dividendes atterrissent de façon quasi systématique dans des sociétés holding familiales et à ce titre échappent à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, si vous exprimez le taux minimum d'imposition en pourcent du revenu, ça ne fonctionne pas, puisque tout le problème est précisément qu'ils ont peu de revenus fiscaux. Il y a un dispositif qui a été introduit dans le budget 2025, de créer un taux minimum, j'étais content, mais le taux minimum était en pourcent du revenu. Ça n'a aucun sens. Maintenant, tout le monde comprend. Et c'est là où le débat public, quand même, on peut se féliciter, a bien avancé, que si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut que le taux minimum soit exprimé en pourcent du patrimoine, parce que le patrimoine, lui, il est difficile à manipuler.
Je suis très contente qu'on aborde cette notion de holding parce que, en fait, derrière cette notion-là, c'est toute une partie du débat aussi qui se cristallise. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, estimait dans un entretien donné aux Échos en février dernier que l'impôt plancher proposé par les écologistes taxe tout le patrimoine, y compris l'outil de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'outil de travail, Gabriel Zucman? Est-ce qu'il faut entendre là ces fameuses holdings?
C'est une notion qui n'a pas de sens bien défini, qui est un artefact de l'époque où on avait un ISF, un impôt de solidarité sur la fortune, qui excluait les biens professionnels ou l'outil de travail. Par cela, les gens entendaient le four du boulanger, le fonds de commerce de la PME.
C'est très concret. Là,
voilà. Alors, mais tout ça est exclu du dispositif dont il est question aujourd'hui au Parlement, puisque on commence à 100 millions d'euros de patrimoine. Donc, à l'évidence, il ne s'agit pas de taxer les boulangers ou les patrons de PME. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est, comment dire, en jouant sur la sémantique, en essayant de créer de la confusion comme ça, la notion d'outil de travail, de bien professionnel, s'est étendue au fait de posséder beaucoup d'actions. C'est-à-dire qu'en pratique, ce que le gouvernement appelle l'outil de travail, ce que certains parlementaires qui sont encore opposés à la proposition de loi appellent les biens professionnels, c'est posséder beaucoup d'actions, par exemple plus de 20% d'une entreprise, et ils disent « Oh là là, si vous possédez beaucoup d'actions, eh ben on veut sortir ces actions du patrimoine ». Mais tout ça n'a aucun sens, parce que foncièrement, les grandes fortunes sont composées pour l'essentiel de patrimoine financier et surtout d'actions. C'est une loi générale dans les sociétés capitalistes. Plus vous montez dans la distribution des fortunes, plus le patrimoine financier, et en particulier le patrimoine en actions, qui est le vrai pouvoir économique et social, monte en importance. Donc, exclure les grosses détentions actionnariales de la définition du patrimoine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous allons exclure les actions LVMH de la fortune de Bernard Arnault. Nous allons exclure les actions du groupe Bolloré, de la fortune de Vincent Bolloré. ça ne tient pas, ça n'a pas de sens.
Cela dit, cette question de la façon dont on estime aussi ces holdings et le rôle qu'elles jouent dans tous ces mécanismes-là de taxation et de fiscalité ne fait pas consensus. Pour certains, les choses ne fonctionnent pas tout à fait ainsi. De deux choses l'une, nous explique un économiste, soit la société distribue des dividendes qui sont alors soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, soit les sommes dorment au sein de la holding et donc qui reste disponible pour leurs propriétaires, ce qui augmente donc la valeur de la société et donc le montant des droits de la succession au moment où le propriétaire de la holding mourra. Gabriel Zucman, est-ce que c'est un argument qu'on peut entendre ?
Non, ça n'a aucun sens, cette casuistique ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion dans les débats sur ces questions, sur les principes économiques, les concepts fondamentaux. Alors c'est peut-être de la faute des économistes. Donc j'aimerais bien expliquer. Il y a trois notions fondamentales en économie. Il y a le revenu, la consommation et l'épargne. Le revenu peut être dépensé, peut être consommé ou il peut être épargné. Donc c'est la somme de la consommation et de l'épargne. On a un impôt sur le revenu en France. Pour l'essentiel de la population, cet impôt sur le revenu touche tous les revenus. C'est-à-dire que vous et moi, vous touchez un salaire. Et avant de pouvoir épargner quoi que ce soit, ou avant de pouvoir consommer quoi que ce soit, vous payez l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de votre revenu, qu'il soit consommé ou épargné. Pour les très grandes fortunes, l'essentiel de leurs revenus est épargné. Parce que quand vous touchez, comme Bernard Arnault, 3 milliards d'euros de dividendes, c'est difficile de consommer 3 milliards. Hein, donc le taux d'épargne, il converge vers 100% au sommet de la distribution. Donc pour eux, le taux de consommation est très faible, le taux d'épargne est extrêmement élevé. Et l'impôt sur le revenu, pour eux, ne taxe que leur consommation, c'est-à-dire les petites sommes qu'ils sortent de leur société holding pour financer leur train de vie, il n'y a que ça qui est fiscalisé et toute leur épargne, qui est 99,9% de leurs revenus, n'est pas fiscalisée. Alors il faut être cohérent, parce que là c'est vraiment important de clarifier ce débat. Il y a une position qui est logiquement acceptable, qui consisterait à dire, nous on n'aime pas l'impôt sur le revenu, on pense que les milliardaires ne devraient payer que sur leur consommation. Très bien, mais dans ce cas-là, il faut supprimer l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Et on ne taxe que la consommation. Ça, ce serait cohérent. C'est là, en fait, la position conservatrice traditionnelle. Les conservateurs, toujours, depuis des siècles, depuis qu'on a des débats sur l'impôt sur le revenu, n'aiment pas l'idée d'un impôt sur le revenu, donc qui taxerait la consommation plus l'épargne. Ils ne veulent taxer que la consommation.
C'est le rôle de la TVA.
C'est le rôle de la TVA. Donc je pense que les opposants au projet, dans le fond, il ferait mieux de dire très explicitement quel est le fond de leur position, qui est qu'ils trouvent ça très bien que les milliardaires ne payent pas d'impôts sur leur épargne. Et dans ce cas-là, il faut être cohérent, il faut permettre à tout le monde de ne pas payer d'impôts sur son épargne. Et on abolit complètement l'impôt sur le revenu, on le remplace par un impôt sur la consommation pour qu'il y ait une égalité de traitement. Ça, ce serait une position, c'est pas ma position, tout le monde le comprend, mais ce serait défendable, ce serait intellectuellement cohérent. À partir du moment où on est attaché au fait d'avoir un impôt sur le revenu, il faut qu'il s'applique sur le revenu pour tout le monde, c'est-à-dire soit pas que pour le revenu des classes moyennes, mais que ce soit aussi sur le revenu des milliardaires. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque, comme je l'ai expliqué, l'essentiel de leur revenu est épargné, et l'épargne qu'ils réalisent via leur société holding, cette épargne-là n'est pas fiscalisée. Alors, parfois, il y a l'idée que l'argent, comme ça, dormirait, disparaîtrait dans les sociétés holding, que ce serait pas vraiment leur argent à eux. Mais tout ça n'a aucun sens. Les milliards qui atterrissent dans les holdings, ce que font les milliardaires qui possèdent, qui contrôlent entièrement ces holdings, ils en font plein de choses. Et ils peuvent acheter d'autres actions, ils peuvent diversifier leur portefeuille, ils peuvent acheter de l'immobilier, ils peuvent faire de la philanthropie, ils peuvent acheter des yachts, enfin un peu tout ce qu'on peut vouloir faire à ce niveau de fortune-là. Il va acheter des médias, contrôler des médias. Donc l'idée que cet argent serait dormant, ne serait pas contrôlé par les personnes concernées, n'a aucun sens.
Cette idée de l'argent dormant a motivé un autre contre-argument, un autre narratif aussi, c'est celui de la difficile liquidité, difficile accès à cet argent pour pouvoir s'acquitter justement de son impôt. C'est un argument que défendait notamment François Jolivet, député du groupe Horizon et Indépendant, qui exprimait son désaccord le 20 février dernier.
Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur une proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. L'intitulé est accrocheur, l'intitulé est pur, l'intitulé est dur. La mécanique qu'il met en place est brutale. Un impôt, selon nous, qui semble s'éloigner de la réalité économique et du monde de l'économie. Selon l'article unique de cette proposition, l'impôt plancher s'appliquera quels que soient les revenus générés par le patrimoine. Sans prise en compte des crises économiques, des fluctuations des marchés ou même des obligations, c'est donc une double peine. Un entrepreneur dont l'entreprise connaît une mauvaise année devra payer malgré tout. Un propriétaire d'actifs immobiliers, peu liquide, sera contraint de vendre. Une fiscalité que certains baptisent confiscatoire, qui ne fait qu'encourager les exilés dans des pays par ailleurs que vous aimez bien, l'Espagne, le Portugal, peut-être la Suisse un peu moins, mais toujours très attentive à accueillir des sièges de société, privant ainsi la France de talents, d'emplois et de contributions économiques durables. À quoi bon vouloir taxer davantage si au final il ne reste plus rien à taxer? Cette loi risque également de nuire gravement aux licornes françaises, dont certains de vos rangs font la promotion, qui peinent déjà à rivaliser avec leurs concurrentes américaines ou asiatiques. Celles-ci passent souvent plusieurs années déficitaires avant d'atteindre la rentabilité. Pas de rentabilité, mais taxées sur le patrimoine, impôt tout de même. Les taxer sur leur patrimoine plutôt que sur leurs revenus, c'est sans doute les condamner à l'échec.
Les condamnés à l'échec, c'est donc François Jolivet, député du groupe Horizon et Indépendant. Gabriel Zucman, on a commencé à comprendre avec vos explications que ce n'était bien pas les entreprises qui étaient visées. On entend toutefois cette idée. Et en fait, ça rejoint aussi ce que vous nous disiez un peu plus tôt sur cette très grande difficulté à mesurer la fortune des individus. À partir du moment où on se base sur la valorisation, notamment en bourse, on pourrait se dire qu'effectivement, certaines entreprises, dont ces fameuses licornes, qui sont très très valorisées en bourse, mais qui ne touchent pas forcément encore de profits, on va dire, concrets, vont être pénalisées par ce genre de mesures.
Oui, c'est un argument qu'on peut entendre, mais qui concerne très peu de cas. Pourquoi ? Parce que en moyenne, les entreprises qui sont détenues par nos très grandes fortunes, elles font des profits. Hein, c'est pour ça que leurs propriétaires sont riches. Le taux de rentabilité sur la fortune des centimillionnaires, il est en moyenne de 5 à 6% par an. C'est à l'aune de ces 5 à 6% qu'il faut juger le prélèvement de 2%. Alors 5 à 6%, c'est une moyenne. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, n'a pas une rentabilité garantie de 5 à 6%. Pour certains, ça va être plus. Pour d'autres, ça va être moins. Dans l'immense majorité des cas, on va être au-dessus, nettement au-dessus de 2%. Dans certains cas, rares mais réels, on peut être en dessous. C'est le cas des licornes. Effectivement, de sociétés très valorisées par le marché boursier, des jeunes pousses, mais qui ne font pas encore de bénéfices. Sur les 1800 foyers fiscaux qui seraient concernés par la mesure, c'est peut-être une dizaine ou quelques dizaines de cas. Donc, c'est un problème d'abord qu'il faut relativiser, mais surtout, c'est un problème qui a des solutions. Il a deux solutions. Première solution, c'est de permettre l'étalement des paiements. Voilà, si vous n'avez pas de liquidité une année donnée, pas de revenus, et bien vous allez payer sur plusieurs années. On sait très bien faire. On a un impôt sur les successions qui est au taux de 45% pour les successions, les plus hautes successions en ligne directe. On a des mécanismes d'étalement des paiements. Donc, ce qu'on sait faire depuis des décennies pour l'impôt sur les successions, à 45%, bien sûr qu'on pourrait le faire pour un taux de 2%. Deuxième solution encore plus puissante, ce serait de permettre aux personnes concernées de payer l'impôt en nature, c'est-à-dire avec des actions de leur entreprise. Elles n'auraient pas besoin de liquider, elles transféreraient quelques actions à la puissance publique. Charge ensuite à l'État soit de garder ses actions, d'être actionnaire passif, soit de les revendre. Il pourrait les revendre en priorité aux salariés des entreprises concernées. Donc ce serait juste un petit transfert de propriété des actionnaires fondateurs vers les salariés, mais les actions restent dans l'entreprise. Ou s'il n'y a pas assez de preneurs chez les salariés, l'État pourra ensuite ouvrir la revente à d'autres investisseurs. Et on pourrait mettre des interdictions à toute revente à des non-résidents. Parce qu'un argument qu'on entend souvent, c'est « Oh là là, vous allez forcer la vente de nos champions nationaux et de nos licornes à des étrangers, des fonds de pension américains, des investisseurs chinois. » Alors tout ça, ça flatte les oreilles nationalistes. Mais ça n'a aucun sens économiquement. D'abord parce que il y a une épargne considérable en France. Enfin, les Français épargnent beaucoup. Il n'y a pas que les milliardaires qui épargnent, il y a aussi le reste de la population. Et puis surtout parce que simplement, on pourrait interdire ces reventes à des non-résidents.
Ce qui est intéressant, Gabriel Zucman, je fais une petite parenthèse méthodologique. On parle là d'entreprises cotées en bourse. Que se passe-t-il pour toutes celles qu'on ne peut pas valoriser, pour toutes les fortunes qu'on ne peut pas valoriser grâce à ce système de la valorisation boursière ?
à peu près la moitié des entreprises détenues par les centimillionnaires, à peu près la moitié de leur richesse, ça correspond à des sociétés cotées en bourse. Et puis l'autre moitié, effectivement, c'est des sociétés non cotées. Par définition, ça va être des grosses sociétés non cotées, puisque les personnes sont très riches. Et les grosses sociétés non cotées, on sait les valoriser, tout simplement en regardant comment des sociétés cotées comparables, c'est-à-dire dans le même secteur, avec le même chiffre d'affaires, etc., le même niveau de rentabilité, sont valorisées par le marché boursier. Il y a toute une technique d'évaluation financière qui est pratiquée par des milliers de personnes qui travaillent dans l'industrie financière dans le monde entier, dont l'administration fiscale pourrait s'inspirer. Simplement, il faudrait que ce soit fait par l'administration fiscale elle-même. Ça, c'était une erreur de l'ISF. L'ISF n'était pas pré-rempli, c'était aux personnes d'auto-évaluer leur patrimoine. Alors, quand on laisse les gens auto-évaluer, parfois, il peut y avoir la tentation de sous-évaluer. Là, ce qu'il faudrait, c'est que l'administration fiscale dise, voilà, compte tenu des informations à notre disposition, nous valorisons votre patrimoine à temps et donc vous devez payer Y ou Z. Charge ensuite à la personne concernée, si elle le veut, de contester et de proposer une valorisation alternative.
Et l'administration fiscale, elle a les moyens de mener de telles études ?
Oui, surtout humain, si on parle de 1800 contribuables, dont seulement peut-être une fraction possède des sociétés non cotées. Et encore une fois, la technique financière n'est vraiment pas très compliqué. Hein. Il faut regarder les ratios de valorisation des sociétés cotées comparables. Tout ça est très standard.
Vous parlez de 1800 foyers. Vous en avez parlé à plusieurs reprises, ce qui m'amène à la deuxième question que j'avais promis de poser. On a parlé du quoi maintenant. Il faut parler du qui. Donc ces fameux 1800 foyers. Alors, comment ce chiffre-là de 1800 a été établi ? Est-ce que le rapport de la députée Eva Sass parle de 75 ménages milliardaires en France, mais aussi de 378 foyers parmi les plus aisés, dont l'ensemble des impôts personnels ne représente plus que 2% du revenu économique. Alors, à qui va s'appliquer au juste cette taxe, Gabriel Zucman?
Oui, non, tout ça est parfaitement cohérent, c'est-à-dire qu'il y a une centaine à peu près de milliardaires en France. Et puis après, il y a quand même beaucoup de gens qui sont entre 100 millions et 1 milliard, même si la fortune elle-même, elle est vraiment concentrée chez les milliardaires. Et aussi, les taux effectifs d'imposition sont particulièrement faibles chez les milliardaires. D'après les éléments disponibles, aux alentours de 100 millions d'euros de patrimoine, souvent les gens payent quand même un petit peu d'impôts parce qu'ils vont avoir certains revenus salariaux ou certains revenus entrepreneuriaux qui vont être fiscalisés. Et donc souvent, dans la grande majorité des cas, à ce niveau de fortune-là, on est en fait déjà pas très loin de 2%. Et donc, ils seraient peu ou pas concernés par le dispositif. En revanche, c'est pour les très très grandes fortunes, les milliardaires, les décas milliardaires, que les taux d'imposition converge vers zéro, et c'est de là que viendrait l'essentiel des recettes fiscales.
Alors une question se pose aussi, dans quelle mesure ce que vous mettez sur la table est entièrement nouveau, inédit et puis unique à la fois, et on pourrait se dire aussi qu'il y a eu des formes de précédents. Le 4 octobre 2024, Michel Barnier, qui était alors Premier ministre, avait annoncé que le redressement des finances publiques exigeait dès 2025 une contribution exceptionnelle des Français les plus fortunés, et la version définitive du PLF pour 2025 promulguée le 14 février dernier a mis en place une contribution différentielle sur les hauts revenus à hauteur de 20% qui devrait toucher 24 230 ménages. Cette version-là, elle va être plus ou moins reconduite pour le budget 2026, même s'il y a des modifications qui vont être apportées. En quoi elle se différencie de votre proposition, Gabriel Zucman ?
Parce que ce taux minimum est exprimé en pourcent du revenu et non pas en pourcent du patrimoine. Donc très concrètement, ce dispositif Barnier ne va pas concerner les très grandes fortunes. Il rate sa cible.
Mais ce qui est très curieux, et alors ça c'est vraiment une question ouverte de ma part, mais ce qui est très curieux, c'est qu'un économiste comme Camille Landais, que vous connaissez bien par exemple, le disait très bien, et beaucoup d'économistes s'accordent là-dessus, taxer les revenus est un non-sens économique, c'est très peu productif. Pourquoi vouloir se concentrer sur ces revenus justement de la part du gouvernement ?
Pourquoi est-ce qu'ils ont proposé ce dispositif ? Faudrait leur demander, je ne sais pas. Mais moi, je veux voir plutôt les choses le verre à moitié plein. C'est-à-dire que très vite, la plupart des gens se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée. Et même le gouvernement actuel, maintenant, défend un dispositif de taux minimum qui serait exprimé en pourcent du patrimoine. Alors certes, avec un taux rikiki, mais ils ont compris que oui, en pourcent du revenu, ça ne fonctionnait pas.
Un autre économiste a accusé votre taxe, la fameuse taxe Zucman, d'être un ballon d'essai pour un retour de l'ISF. Comment différencier ISF de votre taxe ?
C'est l'inverse. En quelque sorte, cet impôt prend le contre-pied de l'ISF et tire les leçons de l'échec qui a été l'ISF. Moi, je suis très critique vis-à-vis de l'ISF, qui, de mon point de vue, était une erreur intellectuelle et politique assez considérable, pour la raison suivante. L'ISF prétendait, au début, ça s'appelait l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, prétendait taxer les grandes fortunes, mais ne les taxez pas. C'est-à-dire que immédiatement, les milliardaires de l'époque, les très grandes fortunes de l'époque, en ont été exonérés en raison de l'exonération des biens professionnels. C'est-à-dire, tout de suite, on a dit, ah, si vous possédez beaucoup d'actions L'Oréal, beaucoup d'actions LVMH, tout ça est sorti de l'assiette de l'ISF. Et donc, pour résumer, l'ISF, à la veille de son abolition en 2017, commençait à 1 million d'euros de patrimoine et concernait à peu près 350 000 contribuables, mais pas les ultra-riches. Là, c'est complètement l'inverse. On commence à 100 millions. Quelqu'un qui aurait moins de 100 millions n'est pas concerné. En revanche, les ultra-riches seront mis à contribution. Et il n'y a pas d'exonération, il n'y a pas de niche fiscale. Et ça, c'est essentiel parce que, comment dire, ça va être vraiment difficile d'augmenter les prélèvements obligatoires sur quelques catégories de la population que ce soit, tant qu'on n'a pas fait un effort réel pour mettre à contribution nos plus grandes fortunes, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois extrêmement riches et il se trouve que ce sont aussi celles qui paient beaucoup moins que le reste de la population. Si on s'y attaque pas, eh ben simplement, c'est miner le consentement à l'impôt.
Par ailleurs, cette mesure défendue par le gouvernement dont je parlais à l'instant et qui va donc être reconduite en 2026, très probablement devrait rapporter quelque chose de l'ordre de 2 milliards. C'est ce qu'a calculé Bercy. De votre côté, Gabriel Zucman, la taxe que vous proposez pourrait rapporter combien ?
À peu près 20 milliards d'euros. Tout simplement parce que les grandes fortunes françaises sont extrêmement prospères. Si on regarde les chiffres du magazine Challenge, qui n'est pas une source, comment dire, gauchiste, en 2010, les 500 plus grandes fortunes Challenge possédaient en patrimoine l'équivalent de 10% du PIB français. Aujourd'hui, l'équivalent de 50% du PIB français. Donc vous faites le calcul très simplement, c'est-à-dire que 50% du PIB, si c'est taxé à 2%, bah ça rapporte un point de PIB, dont il faudrait soustraire, c'est le principe du taux minimum, hein, du taux plancher, l'impôt sur le revenu dont elle s'acquitte déjà aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on aboutit à des recettes fiscales potentielles de l'ordre de 20 milliards d'euros. Avec les incertitudes qui existent, hein, il y a une marge d'erreur, c'est plutôt entre 15 et 25 milliards d'euros, qui sont dues au fait qu'il n'y a pas de statistiques publiques officielles sur ces questions.
Gabriel Zucman, vous l'avez déjà mentionné, il y a un principe démocratique, un principe de respect de la loi, de la Constitution, tout simplement, d'égalité devant l'impôt. On le comprend, il y a aussi quelque chose qui relève de l'ordre de remplir les caisses de l'État, hein, qui s'applique dès lors que l'on parle de votre taxe. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, en fait, au nom de quoi vous battez-vous aussi pour que cette taxe soit appliquée ?
Je pense que c'est les raisons principales, hein, parce que je veux, comment dire, parfois certaines personnes disent, oh là là, c'est un outil essentiel pour la lutte contre les inégalités, mais je veux être très honnête et dire simplement non. Enfin, je veux dire, ça ne ferait pas de différence très notable à l'évolution des inégalités de fortune. Pour bien s'en rendre compte, le patrimoine des très grandes fortunes françaises, il a augmenté en moyenne d'environ 8% par an sur les 4 dernières décennies, quand le patrimoine du français moyen augmentait de l'ordre de 2 à 3% par an. Donc vous voyez, si vous rabotez le 8% de 2 points, donc on passe de 8 à 6, ce serait toujours plus que le taux de croissance moyen de la fortune pour le français moyen. Donc pour le dire beaucoup plus simplement, avec un impôt minimum, un taux plancher de 2%, c'est pas qu'on vient réduire les inégalités de fortune. C'est même pas qu'on vient stabiliser les inégalités de fortune. On viendrait simplement réduire le rythme d'augmentation des inégalités de patrimoine. Donc là, je vais être parfaitement honnête, hein, si on veut lutter contre les inégalités, il va falloir être beaucoup plus ambitieux. Ce que vient faire ce dispositif, c'est très modeste. C'est rétablir une norme de justice fiscale à minima, sur laquelle, honnêtement, on doit tous pouvoir être d'accord. Ce principe de non-régressivité. Et il se trouve que, oui, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Le gouvernement nous dit qu'il y a besoin de 40 milliards de recettes fiscales ou de baisse de dépenses cette année pour équilibrer le budget. Et là, on a une mesure très concrète, 20 milliards sonnants et trébuchants sur les contribuables qui non seulement sont les plus fortunés, mais ceux qui parmi les plus fortunés ont recours à l'optimisation fiscale. Moi, je ne connais aucune autre proposition, que ce soit de hausse d'impôts ou de baisse de dépenses, qui peut rapporter là, cette année 20 milliards d'euros.
Ce qui nous ramène, Gabriel Zucman, à un point fondamental qui est finalement l'origine du problème. Vous avez parlé d'un problème de vitesse, quelque part, qui est celui que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté entre 2003 et 2024 de 890%. Donc il y a ce problème de vitesse, il y a ce problème d'inégalité aussi, et il y a ce problème d'optimisation fiscale. Et ça, c'est un autre chiffre qui revient à vos travaux, on va dire, de jeunesse, en tout cas vos tout premiers travaux. Vous avez réussi à montrer qu'à l'échelle mondiale, 8% du patrimoine financier des ménages est détenu dans les paradis fiscaux. Pour l'Union européenne, cette proportion-là est encore plus élevé, de l'ordre de 11%. Est-ce aussi à cela que sert une taxe ? Et dans ces cas-là, on a un peu envie de se demander, on revient là au débat qu'on avait un petit peu plus tôt, mais pourquoi se limiter effectivement aux frontières françaises et ne pas avoir donné l'impulsion aussi d'une taxe à l'échelle internationale ?
Alors, effectivement, il y a des masses importantes de patrimoine qui sont détenues dans les paradis fiscaux, mais il y a eu des vrais progrès qui ont été réalisés en la matière. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, ces masses de patrimoine, 8% du patrimoine financier des ménages en Suisse, aux îles Caïmans, etc., pour l'essentiel, correspondaient à de l'évasion fiscale, n'étaient pas taxées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un secret bancaire quasi complet. Depuis 2017, il y a un échange automatique de données bancaires entre tous les centres financiers offshore et les administrations fiscales françaises et des autres pays. C'est devenu beaucoup plus dur de dissimuler son patrimoine dans les paradis fiscaux. Ce qui ne veut pas dire que cette évasion a disparu, hein, mais elle est plus faible et elle est plus complexe que par le passé. Mais surtout, c'est important parce que la création de cet échange automatique d'informations bancaires est une véritable source d'espoir pour le futur. Parce que c'est une des formes les plus importantes, si ce n'est en fait la forme la plus importante de coopération économique internationale qui a vu le jour au cours des deux dernières décennies. C'est un peu comme le taux minimum sur les entreprises multinationales. Pendant très longtemps, on disait, voilà, c'est utopique, ça n'arrivera jamais. Si la Suisse veut choisir le secret bancaire, c'est son droit et personne ne peut la faire changer d'avis. Sauf que ça a changer. Et maintenant, la réalité, c'est l'échange automatique d'informations. Et donc, c'est ça qui me fait penser qu'on a une vraie chance d'aboutir à un accord international aussi à un moment sur la position des grandes fortunes. Simplement, la façon dont on arrive à des accords internationaux, c'est pas en faisant de l'unanimité une précondition. Ça, c'est se condamner à l'échec. C'est au contraire en ayant certains pays qui vont de l'avant. C'est ça qui crée une dynamique, une harmonisation. Je sais pas, par exemple, la France a été la première dans les années 50 à créer une TVA, à expérimenter, à créer la TVA. Puis ensuite, ça a fait tache d'huile. Quasiment tous les pays ont la TVA. Ou la France a été la première, plus récemment, en 2019, à créer une taxe GAFA sur les géants du numérique. On n'a pas attendu un accord européen ou un accord international. Et maintenant, il y a plusieurs pays. Même la semaine dernière, le chancelier allemand, à nouveau pas un gauchiste, a dit qu'il voulait créer sa taxe GAFA à un taux de 10%, alors que nous, c'est 3%. Donc, l'horizon, l'objectif, c'est la coopération internationale, c'est des accords européens ou internationaux, mais la façon d'y arriver, c'est en ayant un pays comme la France qui montre la voie.
Gabriel Zucman, c'est un objectif parce que c'est aussi une garantie d'efficacité, et notamment face à cet argument qu'on a beaucoup entendu, notamment au sujet de votre taxe, cet argument que tout cela allait provoquer de l'exil, alors qu'il soit fiscal, de l'exil des entreprises, on en a déjà parlé, mais aussi de ces ménages d'ultra-riches. Comment prendre cet argument-là, et est-ce qu'effectivement une taxation au niveau international pourrait changer la donne ?
Les accords internationaux sont importants, pas tellement pour ces questions d'exil fiscal, mais plus parce qu'on a besoin de réécrire fondamentalement les règles de la mondialisation et de mettre au cœur de nos traités de libre-échange la question de la justice fiscale, de la justice climatique, de la justice sociale. L'exil fiscal, c'est un argument qui est effectivement un grand classique des débats fiscaux sur ces questions, qu'il faut examiner sérieusement, mais la meilleure façon de l'examiner sérieusement, c'est de se pencher sur les études universitaires de grande qualité qui existent sur le sujet, dont la conclusion est unanime. La conclusion, c'est que l'exil fiscal, c'est pas zéro, mais c'est très faible, c'est rare, c'est quantitativement limité. Vous avez cité Camille Landais, jusqu'à récemment, qui était président délégué du Conseil d'analyse économique. Il a coécrit une étude de grande qualité où ils ont passé au peigne fin les données administratives de la Suède et du Danemark, où il y avait des impôts sur la fortune, beaucoup de changements qui ont eu lieu au cours du temps, pour étudier cette question de l'exil fiscal. Et leur conclusion, c'était, c'est très faible. Et les conséquences économiques de cet exil fiscal, là, je cite vraiment les conclusions principales de leur étude, c'est une baisse de l'emploi agrégé de 0,05% et une baisse de l'investissement agrégé de 0,07%. Donc, il faut avoir un débat rationnel, se fonder sur les faits qui sont ceux-là. Deuxièmement, et plus important, dans la proposition de loi qui est examinée par le Parlement, il y a ce qu'on pourrait appeler un bouclier anti-exil fiscal. Dispositif innovant, très important, qui dit que si des personnes choisissaient de se délocaliser, de s'exiler, elles resteraient sujettes, soumises à l'impôt minimum pendant 5 ans après leur départ. Ah, ça, c'est puissant, parce que ça veut dire que pour échapper à l'impôt, il s'agit pas simplement de prendre sa valise, le train pour Bruxelles. Non, pas du tout. L'impôt va vous suivre pendant 5 ans.
Mais c'est donc, Gabriel Zucman, que le risque a été identifié, tout de même.
J'ai commencé par le dire. Le risque est pas zéro. Mais ce mécanisme bouclier anti-exil est de nature à encore réduire davantage ce niveau faible d'exil fiscal. Et on pourrait aller au-delà de 5 ans. Les États-Unis, c'est extrême, hein. Ils taxent leurs citoyens jusqu'au restant de leur jour. Là, c'est 5 ans. On pourrait dire 10 ans, 15 ans, etc.
Gabriel Zucman, on a commencé cette émission en évoquant le paysage économique, théorique, scientifique aussi, qui était le vôtre, et la façon dont ces questions-là de fiscalité ont émergé progressivement, et notamment à l'aune de cette crise financière de la fin des années 2010. Vous êtes professeur, nous l'avons dit, à l'École normale supérieure. Vous dirigez actuellement un certain nombre de thèses, celles de Jeanne Baumard, Alice Ciocchetti, Laure Heidmann, Paul-Emmanuel Chouk, César Pou. On pourrait en citer beaucoup d'autres, mais notamment celle de Ségal Le Guernéry, que nous avons reçue ici en septembre dernier. Tous ces travaux portent d'une façon ou d'une autre sur les questions de fiscalité internationale. Toujours en 2012, vous écriviez que les détracteurs de l'économie oublient que le renouvellement des connaissances a déjà commencé plus de 10 ans plus tard. Est-ce que vous considérez que le renouvellement a effectivement eu lieu, en tout cas qu'il est en bonne voie?
Il y a des progrès modestes qui ont été réalisés. Il y a cette tendance générale, effectivement, à l'étude, à remettre au cœur de la discipline économique les questions de distribution. Donc, non, il y a des petits progrès. Non, je pense que dans le champ de recherche qui est le mien, qui est la question, effectivement, des paradis fiscaux, de la fiscalité internationale, de la concurrence fiscale internationale, il y a eu... C'est vrai, un Big Bang. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes travaux en 2008-2009, les économistes se penchaient très peu sur le sujet. Il y avait vraiment très peu d'études. Et aujourd'hui, c'est un champ qui, effectivement, est en pleine explosion. Et moi, j'ai l'impression d'être très chanceux de pouvoir collaborer avec des étudiants brillants, des chercheurs dans tous les pays, dans ce champ-là qui est en pleine ébullition.
Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'avoir participé à cette émission, une émission qui est à réécouter sur le site de France Culture, à la page d'Entendez-vous l'écho.